Au nom de la liberté.
Une série documentaire de Radio Zinzine en 8 épisodes.
Au nom de la liberté.
Une réflexion autour de la notion de liberté, s'appuyant sur l'expérience du Café des Libertés à Fort-Calquier. Épisode 8.
Aujourd'hui, il est en train de détruire tout ça.
Ben, la journée d'aujourd'hui, on s'y attendait depuis qu'on a investi les lieux de la briqueterie. C'est pas un scoop. On savait qu'à la trêve hivernale, on serait délogé. C'est pas grave. Ce qu'on a fait, on l'a bien fait. On a fait vivre la culture pendant que tout le monde confinait et qu'il n'y avait aucun accès pour les gens qui n'avaient pas de passe sanitaire. On a développé des liens entre nous d'amour, de fraternité, qui sont indestructibles. Ce n'est pas comme les murs qu'on peut abattre avec une grue. Tout ce qu'on a fait, c'était chouette. C'était très chouette. C'était beau. Les gens venaient avec plaisir, se retrouver. On a appris à se connaître les uns les autres, à défendre nos valeurs. Ici, tous les gens qui sont là ont à peu près les mêmes valeurs, n'ont pas envie de se laisser dicter leur conduite par un gouvernement dictateur, ni même leur santé. Leur santé leur appartient. Le Café des Libertés n'est pas mort, loin de là. Le lieu, on l'a perdu, mais en soi, c'est pas ça qui est grave. On perd nos libertés et on continue de se battre pour les conserver.
La SDAC a été expulsée en avril 2022 et le bâtiment détruit dans la même journée.
Cette balade réflexive autour de la notion de liberté nous a fait cheminer au gré des rencontres et des pensées.
Nous partageons dans cet épisode des pensées et des pratiques qui sont pour nous inspirantes.
Nous les proposons ici comme des ouvertures à l'issue de cette réflexion.
Ça me fait penser à beaucoup de choses. La liberté, c'est déjà le premier mot inscrit sur tous les bâtiments officiels de la République. Ça fait partie des slogans en général de toutes les nations et toutes les sociétés modernes. Donc c'est une sorte d'affirmation de soi des sociétés capitalistes ont intégré cette demande de liberté qui était en fait au départ, à mon avis, adressée aux sociétés féodales où les personnes vivaient sous une domination directe, immédiate d'un seigneur ou d'un roi ou d'une personne. Ils pouvaient être même leur propriété. La liberté dans les révolutions bourgeoises, dans la Révolution française par exemple, a été affirmée comme la liberté de pouvoir faire ses propres choix, faire son commerce, faire son entreprise, ou alors être libre détenteur de son propre corps, c'est-à-dire aussi de sa force de travail.
La modernisation de la société a permis de penser le sujet comme libre détenteur de son corps. Cette libération supposée a permis de concevoir l'association volontaire entre des êtres libres, idée structurante du capitalisme.
Ici et maintenant, qu'en est-il de ces corps libérés ?
Qu'est-ce qu'un corps libre, en fait ? Enfin, pour moi, j'en ai une espèce d'image comme si c'était complètement déraciné du réel. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens ni de réalité.
Anaïs encadre des stages de danse singulière.
Moi, je parle à partir de mon terrain de pratique, la danse singulière et de ce que j'en constate.
Il y a des moments où cette liberté du corps est d'un coup mise en avant, comme ça, comme quelque chose d'inaliénable, alors qu'on sait très bien que de quelles millions de manières, dès que tu sors dans la rue, ça n'existe pas, c'est réprimé, ce que vivent les migrants qui essaient de tenter de traverser les frontières. Personne ne va prétendre qu'on respecte l'intégrité de leur corps. Donc il y a un moment donné, on va prendre quelque chose qui touche une partie de la société qui n'en a peut-être pas trop l'habitude.
Ça m'a fait penser justement à la danse singulière, où on s'est interrogé autour de est-ce qu'on l'appellerait danse libre ? Et du coup, c'est pour ça qu'au tout début, la danse singulière s'appelait la danse de libération, au sens où il s'agirait de se libérer d'un rapport au code. Mais ça ne veut pas dire que le rapport au code, c'est-à-dire au code qui soit académique, mais aussi au code de la danse, mais en fait, on peut le voir au code plus généralement, des façons, par exemple, de relationner dans un espace commun, puisque là, c'est une pratique de groupe. Donc, il s'agirait plus d'une danse de libération du rapport au code, où il ne s'agit pas de les mettre de côté ou de s'en débarrasser, mais plutôt par le truchement de l'autre, c'est-à-dire le fait qu'on soit en coprésence avec de l'altérité, que ça nous permette de les remettre en jeu, de les reconnaître déjà, puis éventuellement de les remettre en jeu, d'y donner une respiration.
L'idée de l'émancipation, c'est de se libérer, là, du coup, d'une condition qui devient insupportable, et de dire, on va aller au-delà, on va exploser ce qu'il nous a expliqué comme indépassable. Alors à l'époque féodale, religieuse, etc., on pouvait dire un peu, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais à l'intérieur du cadre de l'Église, l'organisation féodale, et donc il ne restait pas beaucoup de place pour improviser, parce que c'est la loi, parce que c'est pas parce qu'on veut vous opprimer, c'est parce que Dieu a fait le monde comme ça. Mais aujourd'hui, c'est exactement la même chose, mais dans une société beaucoup plus dynamique, où il peut faire ce que tu veux, vas-y, mais si c'est pas rentable... Bah, tant pis pour toi. La loi de base, c'est ça.
Pour moi, ce qui est un endroit de résistance quelque part et un endroit préservé, et voire même parfois il faut lutter pour pouvoir créer ces espaces, c'est des espaces où il n'y a pas de projet prédéfini avec des inductions, en tout cas, qui viendraient structurer comment il faut être, comment il faut se comporter, avec quel corps on doit arriver. Bien que dans des espaces où il n'y a pas d'induction de projet a priori, ces déterminants là existent, c'est pas que tout à coup ils deviennent invisibles. Mais en tout cas, ils laissent la place à ce que les choses elles puissent se tramer autrement. Et à l'endroit de la danse, le truc, c'est qu'il n'y a pas les mots. Du coup, il reste un truc hyper mystérieux et quand même une surface de projection complètement ample, dans lesquels chacun peut se raconter son histoire. Au final, il ne s'agit pas de déterminer qui a tort ou qui a raison, et même la personne qui danse n'y comprend parfois rien non plus. Donc personne ne doit comprendre quoi que ce soit. Enfin, il n'y a pas à comprendre, mais par contre, on peut pressentir des choses tellement puissantes, mais je pense parce que ça se passe à l'endroit de l'archaïque. Donc c'est là où c'est des espaces particuliers.
Aujourd'hui, l'émancipation consisterait à s'émanciper de ces lois muettes de l'économie, entre autres. C'est le choix de la rentabilité d'une production, par exemple, n'est pas du tout, n'a rien à voir avec la qualité, n'a rien à voir avec la sauvegarde de la planète, etc. C'est complètement le contraire. Se libérer, sortir de l'économie, ça veut dire aussi sortir de l'organisation étatique de la société, ça veut dire de sortir du rapport social patriarcal, etc.
Pour moi, la rencontre avec la danse singulière, elle a été révolutionnaire à cet endroit-là. Je disais, mais enfin, un espace où on ne nous demande rien. Pour moi, c'est un modèle inspirant pour d'autres groupes politiques et militants ou autres. Après, là où il ne faut pas confondre, c'est que c'est quand même un entre-deux avec un début, une fin, c'est un rituel. Ce n'est pas un espace social, donc je ne voudrais pas non plus dire ça et l'extrapoler à un tout social.
Si le corps nous offre un potentiel espace-temps pour se redéfinir individuellement et collectivement, il ne peut l'être qu'adossé à une pensée critique radicale du capitalisme.
Comment fonctionne le capitalisme ?
Sandrine mène des recherches sur une forme de critique radicale du capitalisme.
La première chose, vraiment fondamentale, c'est de le considérer comme une totalité. Cette totalité n'est jamais achevée, mais c'est une tendance. Le capitalisme est totalitaire. Ça veut dire que quand on veut viser un seul aspect de cette totalité, on risque de s'égarer dans des luttes partielles, une théorisation incomplète ou tronquée. On va juste penser que parce que quelqu'un s'en met plein les poches, c'est lui la cause du problème. Il ne s'agit pas de prendre aux uns et donner aux autres, il s'agit d'abolir ce système dans son intégralité, c'est-à-dire avec toutes ses catégories.
L'exemple le plus simple à voir, c'est, et pas si simple à voir non plus, mais c'est l'histoire du climat, où tout le monde a commencé à comprendre qu'on va vers la catastrophe, et qu'en même temps, on est incapable, dans cette forme sociale actuelle, de faire quoi que ce soit, parce que ça va contre les lois de cette société-là.
Souvent, quand on parle de la dimension du corps, il y a une forme d'aspect un peu compétitif, comme s'il y avait toujours un objectif de résultat ou une visée potentielle, soit de performance, soit de rentabilité, en fait, qui est très reliée à l'économie capitaliste. C'est-à-dire qu'à partir de pratiques, même de pratiques corporelles ou d'une pensée du corps qui pourrait être éventuellement intéressante. Mais enfin, je n'arrive même plus à penser ça au sens où en fait ça a été tellement vampirisé, quoi, je sais pas, c'est le mot qui me vient, par l'économie capitaliste. Pour moi, c'est une machine à normaliser de ouf. Je ne connais pas de pratiques de développement personnel qui amènent une critique sociale en parallèle.
Une critique simplement partielle, dire par exemple, il y a des luttes écologistes, il y a des luttes pour les migrants, il y a des luttes pour des tas de causes en fait. Toutes les causes sont bonnes, il n'y a que des crises si on regarde le monde aujourd'hui. Donc toutes ces luttes peuvent être évidemment justifiées localement et pour autant, si on reste là-dessus, on perd de vue le fonctionnement global au niveau maintenant planétaire du capitalisme qui fait tourner cette machine-là et qui l'a fait tourner mais en crise en plus. Ça veut dire même pas que ça tourne bien. Critique globale, ça demande aussi de faire l'effort de rentrer dans ces différentes catégories. C'est-à-dire que c'est pas juste « ah, je suis contre tout ». Dans ce cas-là, ça peut vite dériver vers quelque chose comme une théorie du complot, justement. « Ah, je suis contre tout », puis il y a peut-être quelqu'un derrière qui manipule tout ça. C'est ça aussi le risque. C'est-à-dire que c'est pas facile. Ça nécessite vraiment un effort de se demander « mais bon, l'argent, par exemple, c'est quoi ?» La marchandise que nous utilisons tous les jours, c'est quoi ? Le travail, c'est quoi ? Et c'est aussi la nécessité de rentrer dans les déterminations historiques. Comment ces choses-là sont arrivées ? Ça ne vient pas du jour au lendemain. Il y a des moments où il y a une transformation, on pourrait dire radicale. C'est-à-dire qu'une chose, par exemple l'argent dans l'Antiquité, n'a pas du tout la même fonction que l'argent aujourd'hui. On peut dire qu'aujourd'hui, l'argent a une fonction dans le capitalisme, mais dans l'Antiquité, ce n'était pas capitaliste. Ça existait et pourtant, ça ne déterminait pas la vie de tout le monde.
Tout le monde est capable de penser de façon complexe. Après, il faut des fois un peu une entrée. On fait les choses pas par pas. Moi, je ne me prends pas pour un super intellectuel. J'ai arrêté l'école à 15 ans. Je crois que des fois, il faut faire attention de ne pas retomber dans un truc. On va aller éduquer le peuple, quoi. Mais ça veut dire aussi ne pas accepter la pensée simple quand les gens ressortent des vérités comme ça. Les choses sont comme ça, etc. Ne pas l'accepter. Il faut un peu être exigeant aussi, je pense, pour ne pas tomber dans le truc. Je vais t'expliquer comment c'est, de façon simple. Comme ça, tu vas faire un bon soldat de la révolution.
Les militants, ils ont tendance à soit demander à la théorie qu'elle leur dise ce qu'il faut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, soit de mettre en jeu eux-mêmes une théorie un peu rudimentaire peut-être, c'est-à-dire qu'ils pensent savoir ce qu'il faut faire. Je trouve que ça amène un peu de modestie aussi de se dire que la théorie, c'est essentiel, c'est un moment qu'on devrait prendre vraiment au sérieux, voilà. Mais que pour autant, c'est pas elle qui va tout changer, c'est pas non plus elle qui va nous donner le mode d'emploi pour la transformation.
Depuis qu'en tout cas je suis plus baignée à l'endroit des pratiques corporelles, je me rends compte que la théorie, elle me permet de construire à partir de l'expérience et d'en construire un sens, mais j'allais dire limite un autre sens, mais qui permet après par des allers-retours de rééclairer ce qui se passe du coup sur le terrain, dans mon quotidien intime, enfin dans des actes quoi, du quotidien, d'avoir cette pensée théorique que j'extrais d'un mouvement critique, me permet de transformer en partie la vision que j'ai de la réalité. Donc en fait, je sens qu'elle est agissante. Enfin, il y a d'abord pour moi ce truc-là de je vis quelque chose dans lequel je suis avec un éprouvé brut et je suis collée à cette réalité et je n'arrive parfois pas du tout à prendre de la distance. Le détour théorique me permet de m'en distancier, du coup d'y voir apparaître peut-être un ou des sens différents. Et ces sens-là se réimprègnent après dans ma réalité quotidienne et je me rends compte que ben, je me façonne de ça et ça me transforme. En fait, pour moi, penser les choses, ça change quand même grandement mais la façon dont on les met en acte aussi. Et du coup, notre rapport au monde.
Danser les corps.
Danser les corps.
Danser les mots. Ébranler l'immobile.
Et dans un élan...
Effleurer la liberté comme profond mouvement d'émancipation
qui,
inspirant nos imaginaires,
bousculerait nos récits. Vous venez d'entendre l'épisode numéro 8 d'Au nom de la liberté, une série documentaire de Radio Zinzine.